m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers amis, vous êtes effectivement sur Radio Courtoisie dans Restons Courtois et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Ludovic Grayling puis Maud Marianne. L'un est un spécialiste de la classe mondiale, plutôt de la manière dont les élites ou les autoproclamées élites ont décidé de nous lier et de nous diriger, non pas avec un anneau, mais avec des lois, avec des règlements, avec des discours. Et ensuite, Maud Marianne, que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute déjà, avocate, qui elle aussi se bat pour la liberté d'expression, mais qui n'attaque pas les élites, elle attaque ceux qui sont victimes des élites, comme par exemple tous les soignants qui ont été, suspendus, vilipendés, moqués et en fait combattus par le pouvoir. D'abord, Ludovic Grayling, donc pour parler du cadre général de cet asservissement européen et même mondial, et ensuite Maud Marianne, si j'ose dire, pour passer à un cas pratique. Bonjour Ludovic Grayling.
Bonjour.
Vous pouvez enlever vos écouteurs si vous voulez, il n'y a que nous deux. Voilà, moi ça me permet de vous entendre.
Bon.
Et vous êtes l'auteur d'un livre, Le monde qu'ils veulent, qui est paru il y a 2 ans aux éditions de l'Artilleur, lire et écouter nos élites pour comprendre la révolution en cours. Et c'est une révolution qui, est sans cesse en actualité, sans cesse en mouvement, sans cesse en ébullition, et avec d'ailleurs un pouvoir central qui est de plus en plus énervé. On va écouter Jean-Noël Barrot qui nous explique justement qu'il faut être très énervé quand les gens se mêlent de donner des leçons aux autres.
Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent.
Alors, ça, c'était Jean-Noël Barrot, donc le ministre des Affaires étrangères de la France, qui réagissait vigoureusement parce que les Américains, les Italiens et quelques autres nations civilisées dans le monde trouvaient que le fait de massacrer Quentin Derenque à coups de pied dans la tête était quand même une manière bizarre de faire de la politique.
Ça, c'était en février, sur France Inter. Et en fait, Jean-Noël Barrot n'a fait que reprendre l'expression utilisée par Emmanuel Macron en janvier 2025, donc il y a un an. Et Emmanuel Macron a innové avec cette expression d'international réactionnaire, qui ensuite a été reprise par plusieurs responsables politiques, notamment Pedro Sanchez, qui est le Premier ministre espagnol, mais qui est aussi président d'un organisme extrêmement important, mais finalement qui passe un peu sous les radars de l'analyse, qui est l'international socialiste. Et donc en fait, cette expression d'international réactionnaire est un pendant direct à cette organisation l'international socialiste. Et il y a quand même ça, 2-3 organismes extrêmement importants qui sont passés sous les radars de l'analyse et qui facilitent, quand on se plonge dans leurs écrits et dans leurs discours, en fait, ça facilite grandement l'analyse. On comprend qu'en fait, l'ère des grandes idéologies politiques n'est pas morte en 1991 avec la chute de l'URSS, elle n'est pas morte avec la chute donc de la troisième internationale, l'internationale communiste. En fait, il y a une autre organisation et globalement, on peut comprendre, hein, de toute façon, une idéologie un peu similaire qui a pris le relais, qui est beaucoup plus fine, mais il y a toujours les mêmes visions globales et les mêmes finalités. Et notamment, on les retrouve à travers ces organisations, l'internationale socialiste ou alors même l'alliance progressiste que les principaux membres de la deuxième internationale ont créé en 2013 déjà, complètement passé sous les radars. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir Emmanuel Macron effectivement faire cette innovation sémantique avec l'international réactionnaire, qui est ensuite reprise vraiment par pas mal de dirigeants mondialistes, c'est-à-dire des gens qui ont une vue à terme globale avec l'idée de construire au-delà d'un État européen, une gouvernance mondiale centralisée, etc. C'est ça le mondialisme. Et qui aussi ont une vision un peu dilutive des sociétés, de l'individu. et donc qui ont inventé ce terme que je trouve extrêmement intéressant, parce que Jean-Noël Barrot parle d'international réactionnaire, c'est du vocabulaire qui était typique de l'Union soviétique. Hein. C'était vraiment utilisé massivement par les mouvements communistes à travers le monde au cours du XXe siècle. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant, et quand on se penche sur cette internationale socialiste, on comprend en fait énormément de choses. Par exemple, vous savez que l'actuel secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a été président de cette internationale socialiste entre 1999 et 2005, pendant 6 ans, c'est pas rien. Et donc on se retrouve en fait avec encore une fois une vision du monde qui n'a pas tellement évolué. La manière de mener la politique et de transformer le monde et de faire la révolution en quelque sorte, bien sûr, a changé. On n'est plus en 1920, les choses se font de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus indirecte. Mais ce que j'ai compris, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est qu'en fait on est dirigé par des esprits profondément révolutionnaires, des mondialistes révolutionnaires, on peut dire, des gens, je veux dire, violents, dangereux, y compris des personnes, mais qui sont assez fines.
Ça vaudrait le coup de revenir quand même sur international socialiste et international réactionnaire. On va le faire pendant une heure ensemble, mais en remarquant d'une part que quand Macron forge cet international réactionnaire, il est à la limite du complotisme. C'est-à-dire, on a d'un côté une organisation réelle, cet international socialiste, cette autre organisation dont vous avez parlé, l'Alliance progressiste, qui sont véritablement des alliances, des sociétés, des associations qui ont une existence légale avec des représentants, des membres, des adhérents. Et l'International Socialiste est une association des partis socialistes dans le monde qui regroupait très officiellement les principaux partis socialistes, qui regroupait donc d'ailleurs les principaux dictateurs, qu'il s'agisse des dictateurs arabes, des dictateurs russes, des dictateurs d'Europe de l'Est, des dictateurs d'Amérique du Sud. Enfin voilà, socialiste a réuni le gratin de ceux qui ont opprimé les peuples, et ça c'était quelque chose de réel. Et effectivement, les socialistes évidemment se dévorant les uns les autres, première internationale, deuxième internationale, troisième internationale, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui meurt avec la chute de l'URSS, mais en fait l'international socialiste existe toujours. L'international réactionnaire, il n'y a pas un groupement constitué de gens qui disent notre idéologie c'est le réactionnarisme et on va s'allier tous ensemble. Non, il y a une espèce de pensée complotiste du camp du bien, des progressistes, de ceux qui sont alliés pour faire en sorte de rénover l'homme et la société, et qui disent tous ceux qui sont contre nous forment une alliance de fait, et en fait ils sont ligués dans l'ombre pour nous empêcher d'avancer. Et le camarade Macron nous expliquait s'il y a 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus gros réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, Macron lui-même intervient peu de temps après directement dans les élections d'autres pays. Et
c'était la réunion des ambassadeurs
de 2025. C'est vous qui avez attiré mon attention sur ce texte. Et effectivement, Macron, à plusieurs reprises dans le texte, parle de l'international réactionnaire, fascination mortifère pour l'international des réactionnaires, une accélération réactionnaire. Enfin voilà, donc les réactionnaires sont partout et ils nous empêchent de vivre.
Des mots typiques de l'Union soviétique, encore une fois. Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant de remarquer qu'ils reprennent les mots qui étaient utilisés par l'Union soviétique à l'époque.
Pour disqualifier, effectivement, tous ceux qui n'étaient pas capables de reconnaître le miracle économique et politique de l'Union soviétique.
C'est ça. Et alors évidemment, si vous dites aux membres de l'International socialiste qu'ils ont soutenu les dictateurs, ils vont s'étrangler. Parce qu'eux, ils vont vous dire, maintenant, justement, nous, l'IS, le deuxième international, on veut aboutir à des résultats finaux par le biais de réformes, de l'éducation, enfin l'éducation en tout cas de la prise en main des jeunes et des enfants par l'État. Et justement, on est contre la violence politique, c'est ce qui avait un peu provoqué la scission du mouvement international socialiste au début du XXe siècle, c'est qu'il y avait les gens qui étaient favorables à Lénine et à la révolution violente bolchévique, à l'obtention de à l'obtention à des avancées politiques par la violence. Et puis l'international socialiste disait bah, nous on va non on veut faire les choses de manière plus soft. C'est ce qu'ils font depuis 35 ans effectivement, de manière plus soft. Mais en tout cas, il est extrêmement clair qu'elle a pris le relais de la Troisième Internationale. Et il y a notamment un dissident soviétique extrêmement qui était connu à l'époque, qui s'appelait Vladimir Poukovski, qui est un monsieur, un intellectuel qui avait été enfermé plusieurs fois à l'époque de l'Union soviétique en hôpital psychiatrique, parce qu'en fait c'était un opposant, et les opposants, on allait les mettre souvent dans des hôpitaux psychiatriques. Et puis il a fini par passer à l'Ouest et par dénoncer tout ça. Et en 2005, notamment, Bukowski a publié un livre extrêmement puissant, extrêmement fort, qui parlait de l'Union européenne et qui la comparait très sérieusement à l'URSS. Et il disait qu'en gros, c'était un projet, et l'IS en général était extrêmement impliqué dans ce projet européen, donc le projet de construction d'un État européen, c'est ça depuis le début, la construction européenne, c'est la construction d'un État centralisé, jacobin, un État unique pour, à terme, qui est censé remplacer les États nationaux à terme pour tout le continent, enfin, à la limite, ça aurait pu se débattre s'il y avait eu débat, mais donc il publie ce livre, et en fait, Bukowski, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il avait pu se plonger à la chute de l'URSS, il avait été nommé par Eltsine et par le nouveau pouvoir pour enquêter sur les crimes du communisme, et pour se plonger, il avait pu se plonger dans les archives de notamment du Politburo, du Soviet suprême. D'ailleurs, ce sont des termes, ça fait penser au guide suprême, là, un peu en Iran. Mais bref, donc il s'était plongé dans ces archives-là, et ce qu'il avait vu, c'est qu'en fait, il y avait eu de très nombreuses relations entre les principaux membres de l'International socialiste dans les années 80 et 90 et les derniers dirigeants de l'URSS. Et donc, il raconte ça dans ce livre, c'est extrêmement intéressant, les visites à la fois de Valéry Giscard d'Estaing, et mais surtout de Jacques Delors, grand membre de l'IS, les visites, les dires de Pascal Lamy qui a dirigé l'Organisation mondiale du commerce, mais qui était un cacique du Parti socialiste français et qui était directeur de cabinet de Jacques Delors à la Commission européenne. Bref, des gens extrêmement importants. Mais en fait, c'est vrai que ce mouvement, cette construction européenne a notamment été façonnée par les principaux membres de la Deuxième Internationale. Et in fine, ce qu'on voit dans ce livre, c'est effectivement des visions très communes, très proches entre un Gorbatchev, qui était le dernier président de l'URSS, par exemple, et puis les principaux fabricants de cette Union européenne, et notamment des membres de l'International socialiste. Pas seulement, on retrouve encore une fois près d'importants membres de l'International socialiste à l'ONU, enfin à l'administration de l'ONU. Et donc il raconte tout ça, et c'est extrêmement... on comprend qu'en fait voilà, l'ère des grandes idéologies politiques ne s'est pas arrêtée en 90, contrairement à ce qu'on disait, voilà, c'est l'ère de l'argent, etc. Il y a à la fois une très forte dilution effectivement par l'économie et par une hyper-financiarisation qui a été menée par les États-Unis, mais cette dilution a eu des regards favorables de la part des principaux membres de l'IS. Là, je vais lire peut-être deux, trois extraits.
Mais n'hésitez pas.
Et puis, cette vision socialiste globale, mondiale, centralisée, et qui se poursuit jusqu'à nos jours, en fait. Et qui a pu prendre de nouveaux visages, hein, à travers, par exemple, l'immigration, façonner... un peu unifier un peu les populations, les façonner différemment, à travers l'économie aussi, et donc l'économie, je veux dire, internationale, la mise en place d'une interdépendance économique entre les grandes zones économiques du monde. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec cette approche extrêmement forte, et encore une fois, quand effectivement Emmanuel Macron ou Jean-Noël Barrot, qui sont plus jeunes pourtant, et qui ne sont pas... dans un état d'esprit soviétique, je pense, ils sont nés un peu trop tard. Il n'empêche, en fait, on voit bien qu'il recrache le vocabulaire et la sémantique directement De l'Union soviétique.
Donc, alors, tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que Jean-Noël Barrot, c'est la voix de son maître. Et donc, il suffit qu'Emmanuel Macron dise quelque chose en 2025. Évidemment, un an plus tard, Jean-Noël Barrot a fait ses devoirs et a appris par cœur les discours du maître. D'autant plus que c'est un discours devant les ambassadeurs et que fortuitement, il est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc, évidemment, ça vaut le coup de savoir ce que Emmanuel Macron raconte. Mais de la part d'Emmanuel Macron, n'oublions pas qu'il a écrit un livre, Révolution. Où il expose son programme, qui est vraiment un programme en faveur des experts contre le peuple, en faveur d'un gouvernement managérial contre un gouvernement démocratique, en faveur d'une nouvelle définition de l'homme, de la nation, même de l'abolition de la nation, des frontières. Autrement dit, un programme qui lui-même emprunte beaucoup à l'idéologie révolutionnaire socialiste qui était provenue en Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Extrêmement intéressant ce livre Révolution qu'il fait paraître fin 2016, donc dans l'optique de la présidentielle de 2017, où il appelle, il annonce des transformations profondes, il dit qu'il est nécessaire de réinventer notre pays, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, il nous appelle à engager une conversion, et effectivement il a des termes comme ça extrêmement forts, il n'oublie pas que notre France républicaine, qui est républicaine par nature, dit-il, a des ennemis. Donc les ennemis, il les désigne, hein, il désigne notamment les conservateurs et les réactionnaires, ce qu'il appelle les conservateurs passéistes. Mais il a toujours ces termes, effectivement, révolutionnaires typiques de 1700, de la Révolution française, typiques de l'Union soviétique. Nous allons dans le sens de l'histoire. Il a une conviction intime et profonde d'aller dans le sens de l'histoire. Il rêve d'une libération collective. Il affirme que s'ouvre devant nous un siècle de promesses. Enfin, c'est extraordinaire de voir tous ces termes qui sont typiques de l'Union soviétique.
Oui, on a vraiment l'impression d'un discours des années 20-30 où on dit que ça y est, l'avenir radieux s'ouvre pour le prolétariat et qu'on est en train d'inventer la société sans classe où le lait et le miel couleront à flot.
Absolument. Et la différence avec l'Union soviétique, c'est que lui, mais une partie aussi du mouvement socialiste international, je rappelle qu'Emmanuel Macron était secrétaire général de François Hollande quand même. Donc,
oui, c'est un socialiste.
Voilà. Et eux appellent à une mondialisation aussi qui est facilitée par la financiarisation. Voilà, cette mondialisation qui s'est accélérée et intensifiée, il en est très content, durant les dernières années, grâce en particulier à l'essor de la finance internationale. Et cela me fait penser à une autre phrase qu'avait dite un ancien Premier ministre espagnol socialiste également. En 1990, il rencontre Gorbatchev et je ne retrouve plus la citation. Et donc, il affirme en gros qu'il essaye de convaincre ses camarades, alors au sens très large, hein, que l'économie pourrait servir à leur fin. Il le dit en 1990, tel quel au président de l'URSS Gorbatchev, lors d'une visite commune. Et donc ça, c'est dans les archives soviétiques, et ça a été rapporté par Vladimir Bukovsky, entre autres. Et on a aussi ce que disait Pascal Mie, donc pour dire encore une fois que cette révolution, cette espèce de grand rêve mondial d'unification à marche forcée et aussi de contrôle, je pense quand même de contrôle par un gros État ou en tout cas par des entités centralisées, ont évolué au fil du temps évidemment, ont évolué. Encore une fois, on n'est plus en 1920, on n'est plus en 1950, le monde évolue. Et les états d'esprit aussi, même si voilà, il y a des lignes, un peu des idées fixes et des fonds communs extrêmement forts. Et l'autre chose que je trouvais extrêmement forte, ce sont des bon, moi j'étais journaliste économique et financier, donc j'ai pas mal suivi des gens comme, c'est normal, comme Pascal Lamy, etc. Et Pascal Lamy a fait ces dernières années, dans plusieurs conférences, il a fait des aveux sensationnels, hein, sur la manière dont l'économie, et disons la mondialisation économique à marche forcée, encore une fois, il faut vraiment distinguer les échanges qui sont naturels et qui sont sans doute une très bonne chose, la volonté de mettre, de façonner des accords commerciaux globaux et de mettre en place un tribunal arbitral généralisé, unique, centralisé, que c'était le cas de l'Organisation mondiale du commerce, et de par exemple de supprimer à marche forcée des droits de douane. On voit bien les conséquences que ça a, par exemple, sur notre secteur agricole. Et donc, Pascal Lamy affirmait par exemple en 2012, au cours des 70 dernières années, nous avons établi le cadre juridique et institutionnel permettant de gérer une intégration économique plus étroite au niveau régional et mondial. Et il affirmait que cet aplanissement un peu économique, c'est-à-dire en gros on fait monter les pays du tiers-monde et puis on abaisse un petit peu les économies du monde développé, c'était d'ailleurs demandé noir sur blanc par le Club de Rome en 91, était une révolution. Il affirme que c'était la première de ces évolutions que l'on pourrait appeler révolution, on est encore dans la révolution, et l'émergence des pays en développement à la faveur de la globalisation. L'Occident a produit la matrice de son déclin relatif, qui est celle des progrès du reste du monde. L'Occident a produit la matrice de son déclin, qui est celle des progrès du reste du monde. C'est Pascal Lamy qui l'affirme, et c'est Pascal Lamy qui l'a organisé en tant qu'ancien directeur général de l'OMC.
Voilà, c'est ça qui est fascinant. Donc Pascal Lamy, qui dirige l'Organisation mondiale du commerce, met en place les conditions du déclin de l'Occident au profit des pays émergents, dans l'idée... non pas tant d'équilibrer les échanges, mais de faire en sorte que cette
d'égaliser le monde.
Prétendue suprématie occidentale soit nivelée, arasée, et que nous ne soyons pas meilleurs que les autres, nous ne soyons pas plus puissants. C'est absolument admirable, puisqu'il le dit en 2012 encore, au moment où la mondialisation commençait quand même à montrer certains de ses effets pernicieux, au moment où la Chine, qui appartenait à l'Union des Républiques Socialistes, où la Chine avait fini par appartenir à l'OMC et commençait déjà à truander et à faire en sorte d'être très protectrice à l'intérieur de ses frontières et au contraire extrêmement agressive à l'extérieur. Autrement dit, au moment même où on était en train de faire en sorte que l'Union européenne devienne une nation de consommateurs et non plus de producteurs, on continuait à s'en féliciter alors que tous les signaux faibles étaient déjà là pour expliquer que ça allait nous conduire à la ruine ou, à défaut de la ruine, à la pauvreté des plus grandes masses.
Absolument, et je retrouve cette citation donc, de l'ancien Premier ministre espagnol, le socialiste Felipe González. Donc, le 26 octobre 90, il rend visite à Gorbatchev et il lui affirme « La révolution de 1917 a initié le partage du monde entre deux systèmes antagonistes. L'émergence de ces deux modèles alternatifs a en réalité ouvert la voie à des tentatives de créer un troisième modèle. » Donc là, il parle de la démocratie sociale, mais aussi du nazisme, du fascisme, qui sont morts c'était pendant les guerres, là. Aujourd'hui, l'essence de la révolution qui se produit dans le monde est le mouvement vers une communauté mondiale unie. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, j'ai dû lutter avec mes camarades du parti pour leur faire comprendre que l'économie de marché est le meilleur instrument pour accomplir nos buts principaux. Rien que le meilleur instrument, pas un but en soi. Donc on a effectivement cette chose assez fascinante, en tout cas extrêmement puissante, qui a été à la fois d'une part la financiarisation voulue par les États-Unis, par les grandes banques de Wall Street, etc. Et puis, un mouvement socialiste international qui s'est dit « Ouais, mais en fait, prenons ça en main parce que oui, ça va nous servir. » Et c'est un peu ce qu'on a vécu ces 40 dernières années, je crois.
Alors, un auditeur de Radio Courtoisie nous envoie une citation de Mikhail Gorbatchev. L'Union européenne est la vieille Union soviétique habillée dans les habits occidentaux.
Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça correspond à ce que disait Bukowski en 2005. Donc célèbre dissident soviétique qui a beaucoup travaillé, qui a été enfermé plusieurs fois en Union soviétique. Et ce qu'il écrit dans ce bouquin et dans son avant-propos est assez poignant, je trouve. Voilà le début de son livre qu'il écrivait en 2005, après le référendum sur la Constitution européenne. Au passage, il avait compris que ce référendum ne serait pas accepté par les élites dirigeantes en place. Et il avait, à la fin de son livre, c'est extraordinaire, il dit il prépare déjà le second coup. Le livre paraît quelques mois après. Et il dit de toute façon, comme c'est une utopie, ils vont foncer et l'Union européenne a tous les oripeaux de l'URSS. Je pense qu'ils n'accepteront pas le résultat du référendum. Bref, donc dans son avant-propos, il écrit « En toute logique, depuis que mes deux ennemis irréductibles, l'Union soviétique et son système communiste, bon c'était son histoire, ont disparu de la surface de la planète, je devrais être le plus heureux des hommes. Et pourtant c'est loin d'être le cas. J'ai vu avec horreur renaître le Léviathan que l'on croyait mort et enterré, ce monstre qui a dévasté tant de pays, asservi tant de peuples et détruit des générations d'êtres humains, avant son effondrement que l'on espérait définitif. Depuis une quinzaine d'années, il réapparaît sous une nouvelle forme en employant les mêmes vieux trucs. Pour s'attirer le soutien populaire et paralyser ses adversaires, il se pare des atours de la paix et du progrès, de l'avenir forcément radieux et de l'abondance toujours promise. Car de la même manière que l'URSS, Union inaltérable de République libre, comme le proclamait l'hymne soviétique, fut créée jadis pour apporter le bonheur à l'humanité, une nouvelle union hégémonique tente de voir le jour sur le continent européen. Etc. etc. Et effectivement, il faisait des parallèles, notamment sur l'organisation dirigeante, sur la manière dont est organisée l'Union européenne en matière de décision. Et il remarquait, par exemple, que la Commission seule dispose de la prérogative de proposer des textes législatifs que l'on appelle directives. Et il disait, mais en fait, c'était la même chose avec le Soviet suprême. Et les technocrates du comité central du parti. Et il faisait beaucoup de rapports comme ça. Et en fait, c'était très logique parce que, d'une certaine manière, l'Union européenne a en grande partie été façonnée par des membres de la Deuxième Internationale qui avaient des vues générales assez proches de celles de la Troisième. Les goulags en moins, bien entendu.
Les goulags en moins, même si justement les goulags sont en train de revenir. Alors, pas les vrais goulags, on ne se retrouve pas expédié en Sibérie, obligé de travailler à construire des murs de briques, comme Ivan Denisovitch, dont Solzhenitsyn a raconté l'histoire. Enfin, ce prisonnier imaginaire mais emblématique dont Solzhenitsyn raconte l'histoire et qui est en fait son propre cas, sa propre vie aux côtés des autres membres. Mais l'Union européenne et la France sont en train de construire un totalitarisme mou où la liberté d'expression paraît sérieusement attaquée, où le fait, par exemple, de mettre en doute la pertinence de la construction européenne bientôt criminalisé. C'est tout l'objet du bouclier démocratique qu'Ursula von der Leyen veut mettre en place, où elle explique qu'il suffit de mettre en cause la construction de l'Union européenne pour en fait représenter un danger. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Ludovic, que lorsque Marine Le Pen a été condamnée, parmi les choses qui lui ont été reprochées par le procureur, il y avait le fait de porter une idéologie qui était contre l'Union européenne. Et donc, d'une certaine manière, non seulement, évidemment, elle était réputée avoir odieusement volé, ce que jamais aucun député socialiste ni aucun député modem n'a jamais fait, mais en plus, on lui reprochait expressément ses prises de position anti-européennes, ce qui d'ailleurs était assez ironique, étant donné ce que Marine Le Pen dit de l'Union européenne.
Mais le rêve est très fort, le rêve est trop fort peut-être, et c'est peut-être pour ça que... on ne voit pas d'issue, effectivement, d'issue dans la discussion ou la réforme, parce que on a en face des personnes qui estiment que la gouvernance mondiale a besoin de l'Europe en tant que terrain d'expérimentation idéal pour la mondialisation, avec ses règles supranationales et ses institutions. L'Europe a une expérience politique unique et une légitimité particulière. Lula da Silva, le président brésilien, a même dit que l'Europe était cet objet administratif et politique qu'est l'Union européenne, était un patrimoine de l'humanité. Et on a d'autres envolées lyriques de ce type-là, extrêmement nombreuses, où on nous explique que cette espèce de grande construction administrative centralisée est un bienfait de l'humanité. D'autres responsables, comme l'ancien représentant pour les affaires étrangères de l'UE, il était encore il y a quelques années, nous expliquait que l'UE était une construction économique qui avait le plus grand succès dans l'histoire de l'humanité. Souvent, il parle même d'histoire de l'humanité. Voilà. On est dans des envolées comme ça parce que je pense qu'on est face à un rêve, à une aspiration qui est extrêmement puissante, qui est des visions qui n'existent que dans leurs esprits, mais qui sont extrêmement puissantes.
Et des visions utopiques qui sont fascinantes, en partie parce qu'elles n'ont pas de limites. Évidemment, elles n'ont pas de limites dans leur monde imaginaire. Dans le monde réel, les limites de la politique énergétique européenne, les limites de la politique militaire menée sous l'égide de l'Union européenne par les différentes nations qui la composent, puisque, en théorie, le militaire ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne. Quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, Ursula von der Leyen, qui a l'air de considérer que il est nécessaire de nommer un commissaire européen à la chose militaire, mais il n'y a pas de limite. Et d'ailleurs, ceux qui étudient la construction de l'Union européenne font remarquer avec étonnement que l'Union européenne n'est pas géographiquement définie. C'est quelque chose d'absolument fascinant. C'est-à-dire, dans les textes de l'Union européenne, on ne dit pas qu'elle est bornée par l'océan Atlantique, par la Méditerranée, par je ne sais quelle chaîne de montagnes à l'est et par la Baltique. Non, pas du tout. Ou les pôles, pas du tout. Au contraire, on peut adhérer à l'Union européenne pourvu qu'on adhère à ses valeurs. Et d'ailleurs, le programme Erasmus a intégré la Syrie, dont personne n'imaginait jusqu'à maintenant qu'elle faisait partie de l'Union européenne. Et mieux, il y avait un projet où on nous expliquait que dans le cadre de la législation européenne qui se mettait enfin en place, où on avait le droit d'acheter européen, en fait, des pays qui ne font absolument pas partie de l'Europe géographique, ni même de l'Union européenne en tant que telle, pourraient bénéficier de cet acte d'achat européen, puisque tous ceux qui ont signé un traité de libre-échange avec l'Union européenne seraient intégrés dans cette loi sur la préférence européenne en matière d'achat. Donc, autrement dit, je peux acheter indien, je peux acheter au pays du Mercosur, parce que l'Europe, en fait, est une idée. L'Europe est destinée à devenir la nouvelle et l'unique, d'ailleurs, nation mondiale, autrement dit, la seule entité politique.
C'est un objet mondial. C'est pour ça que Lula la décrivait comme un patrimoine de l'humanité. C'est un objet mondial qui, effectivement, n'a pas de limite. N'a pas de limite géographique, notamment. Et on le voit dès le début, en fait, car l'une des grandes questions de l'Union européenne, c'était jusqu'où elle s'élargit. Pendant longtemps, la grande question, c'est celle de la Turquie. D'ailleurs, on a oublié, mais l'une des raisons du non à la Constitution européenne, il y en a eu plusieurs en 2005, mais l'une des raisons à l'époque, il y avait quand même de grands débats sur la Turquie, et comme les responsables de la construction européenne n'osaient pas dire non, parce qu'ils avaient ouvert des chapitres de négociation, ils n'osaient pas dire non, la Turquie n'entrera jamais, ça avait fait partie aussi des raisons du non. Et récemment, Ursula von der Leyen, elle affirmait que ça y est, l'Union européenne allait s'ouvrir à la Géorgie, c'est-à-dire au-delà de la mer Noire. Et on a effectivement cet exemple avec l'ouverture du programme Erasmus, qui est un projet de l'Union européenne, effectivement au pays du pourtour méditerranéen. On avait aussi un ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer. Donc Fischer disait effectivement que l'Union européenne devrait s'ouvrir jusqu'au Moyen-Orient. Et en fait, on est dans un objet mondial depuis le début. Je cite cet ancien collaborateur de Jean Monnet, Robert Bernière, qui l'apprécie énormément, et qui avait décrit le père de l'Europe comme un humaniste mondialiste qui entrevoyait l'interpénétration des races. Donc ça va très loin, en fait. Hein. C'est même pas qu'une question de structure institutionnelle ou administrative et étatique. On est chez eux dans un projet de même de population dans un projet effectivement de type mondial. Comme le disait Emmanuel Macron également, s'il fallait trouver un sens à une formule que je n'aime pas, celle de Français de souche, elle désignerait non seulement celui qui vit en Mayenne depuis 10 générations, mais aussi celui qui, d'où qu'il vienne, où qu'il se trouve, honore la langue française. Rien ne m'émeut davantage que le français qu'on parle en Guyane, dans la Caraïbe, dans le Pacifique. Il est là le véritable français de nos pères, ces pères venus de partout, établi sur toute la surface de la Terre et qui continue de faire de nous une grande nation.
Bien sûr, les pères sont établis sur toute la surface de la Terre. Nous sommes fils de la Terre entière et non pas fils des Gaulois. J'aime bien cette notion de patrie universelle qui est typique de l'homme de la Startup Nation, qui parle anglais comme une vache, n'oserait pas parler espagnol, mais qui, en revanche, truffe son vocabulaire de mots anglais. Je rappelle que je suis en train de recevoir avec plaisir Ludovic Grélin, auteur d'un excellent livre paru aux éditions de l'Artilleur, Le monde qu'ils veulent, sous-titré « Lire et écouter nos élites pour comprendre la révolution en cours ». Voilà, au moment où on dénonce l'international réactionnaire, au moment où les accords de libre-échange se multiplient, au moment où l'Union européenne prévoit d'accueillir l'Ukraine, peut-être la Géorgie, au moment où l'élargissement continuel de l'Union européenne en fait fragilise tous ceux qui constituent les peuples de cette Union européenne, il est nécessaire évidemment de se repencher une fois de plus, car la tâche n'est jamais finie, il est toujours fécond, le ventre doit jaillir la bête immonde, comme disaient d'autres, en parlant d'autres choses. La tâche n'est jamais finie d'assassiner cette hydre de l'Union européenne. Un auditeur de Radio Courtoisie nous dit, en cautionnant les sanctions du Reich bruxello-berlinois, on sent qu'il a un avis bien arrêté contre ses propres citoyens dans ces pays dits du monde libre, Barrot est bien dans la tradition communiste, avec ceci de plus grave que les dissidents, en plus d'être privés de leurs ressources et comptes bancaires, sont interdits de sortie des pays du néo-Reich. Ces sanctions frappent des gens qui ont pour seul tort non pas d'exprimer une opinion, mais plus grave, de démontrer la bêtise des mensonges de la propagande officielle. N'est-ce pas pire que les dissidents soviétiques qui finalement étaient expulsés à l'Ouest ? Alors, il fait sans doute allusion à Jacques Beau, mais d'une manière générale, cette disqualification sociale, ces gens qui du jour au lendemain sont... alors, Jacques Beau est interdit de tout, mais on a en France des gens dont les comptes bancaires sont brusquement suspendus pour la seule raison qu'ils appartiennent au mauvais parti, qu'ils ont lancé le mauvais mouvement. Il y a des artistes français qui se contentent de faire des cartes de France avec des drapeaux des anciennes provinces et que la BNP Paribas ou que la Société Générale, le Crédit Agricole, ont refusé de prendre comme client et même ont expulsé comme client. Donc on est quand même effectivement dans quelque chose d'assez spécial.
Peut-être principalement effectivement quelques grandes banques et avec sans doute effectivement peut-être des coups de fil derrière. Vous avez absolument raison, on est dans un mouvement extrêmement violent. On connaît une époque extrêmement violente parce qu'encore une fois, on est dirigé par des gens profondément révolutionnaires, des mondialistes révolutionnaires. Qui aurait pu d'ailleurs même ouvrir le débat, je pense, sur certains sujets, mais ne l'ont pas fait par le passé. Et on se retrouve dans ce mouvement qui a été un petit peu sous-estimé. Je pense aussi quand même que, indirectement, les mesures extrêmes qui ont été prises pendant la période du Covid, avec une évidente quand même volonté de contrôle, ont réveillé pas mal de gens, mais par exemple, je vois dans le mouvement Antipas, il n'y a pas forcément une compréhension globale du phénomène, mais on est encore une fois, en fait, les choses sont très logiques dans un mouvement, dans une suite logique du XXe siècle, donc on n'a pas du tout changé d'air, en tout cas en Europe, et donc le projet étant tellement puissant, tellement fort, porté par des gens, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron a été mis au pouvoir, il a été mis au pouvoir par des patrons de presse, par des financiers, par des hauts fonctionnaires, je veux dire, il ne s'est pas fait tout seul, s'il n'y avait pas déjà une grande partie des médias établis, des gros médias avec lui, il n'aurait pas pu, du réseau publicitaire qui soutient ces médias, etc., il n'aurait pas pu parvenir au pouvoir, donc... on est face à effectivement un mouvement extrêmement violent et peut-être même qu'il faudra un jour étudier les organisations. On a parlé des organisations au niveau international, l'International Socialiste qui a pris le relais de la Troisième Internationale, l'Alliance Progressiste, on va en dire un mot là. Mais au niveau local, au niveau national, effectivement, on a aussi des groupuscules extrêmement virulents et souvent assez mystiques c'est toujours un peu délicat d'en parler, mais clairement des organisations qui sont constituées, qui sont légales et qui sont publiques, mais qui portent des vues extrêmement bizarres, mystiques et volontaristes, et qui sont derrière sans doute...
Enfin, quand vous dites bizarre, mystique et volontariste, je suppose que vous ne parlez pas de notre très sainte mère l'Église, dont le chef est au Vatican, mais plutôt de deux ou trois loges de francs-maçons.
Non mais voilà, il y en a des organisations qui portent effectivement des visions, ça devrait faire l'objet d'études ça, parce que on n'est pas dans des mouvements extrêmement rationnels non plus. Et donc... Pour revenir tout à l'heure, on parlait de l'International Socialiste. Donc en 2013, les principaux membres de l'International fondent l'Alliance Progressiste, structure qui est pareil, complètement passée sous les radars. Et cette alliance progressiste était destinée à élargir un peu le cadre de l'international, de la deuxième internationale, qui était malgré tout historiquement attaché à des formes très économiques et à une idéologie qui pouvait par exemple faire peur aux Américains. Et par exemple dans l'Alliance progressiste, le Parti démocrate américain a intégré l'Alliance progressiste. Il n'a pas intégré la deuxième internationale, mais il a intégré l'Alliance progressiste. Et cette Alliance progressiste a élargi aussi, a rénové un peu en gros l'idéologie de l'international socialiste et a élargi sa base de membres. On retrouve par exemple une organisation syndicale européenne dans laquelle il y a la CFDT qui est membre de l'Alliance progressiste. La Fondation Jean Jaurès est membre de l'Alliance progressiste. Et cette Alliance progressiste a déterminé en partie du coup le nouveau discours. Et quand en fin 2015, il y a un livre qui sort de deux journalistes qui ont eu accès donc au président François Hollande et dans un livre qui s'intitule « Un président ne devrait pas dire ça ». Et François Hollande leur dit « Il faut faire harakiri, il faut tuer le Parti socialiste pour créer un grand parti du progrès ». On est dans la nouvelle stratégie de l'IS. Et en 2017, Emmanuel Macron reprend ça pendant la campagne, il dit « Moi je suis là, je veux réunir tous les progressistes contre les conservateurs ». Donc en fait, vous voyez bien qu'il y a une évolution de la stratégie de l'IS, très intelligente, et un élargissement de son univers réformiste, au-delà de la seule question du socialisme et de l'économie. Et donc on a là-dedans, dans l'Alliance progressiste, par exemple, elle appelle à établir une révolution numérique à travers toute l'Europe. Elle, bien sûr, dans le progressisme, on a aussi toute cette idée de transformation de la famille, etc. Et donc voilà, il y a eu vraiment une évolution très bien menée, intelligemment menée, mais toujours avec cet aspect, il faut tout changer, il faut tout révolutionner, il faut tout transformer, il faut, pratiquons la table rase, renversons la table. Toujours l'idée du choc aussi, on est souvent, ça j'en parle dans le livre, on est souvent face à des gens avec des Jacques Attali, etc., qui aiment les chocs. Emmanuel Macron qui aime les chocs.
Gabriel Attal passait sa vie à nous parler de chocs de compétitivité, de chocs de je ne sais quoi. Et donc on était choqués en permanence.
Oui, bon.
Voilà. Même dans l'éducation nationale, il y avait un choc des savoirs.
Oui, non, mais il y a vraiment un attrait pour le choc, y compris au sein de l'Union européenne, où le choc est vu comme un support potentiel pour mener de grandes avancées, encore une fois, dans la construction de cet État. Mais
on sent un goût de la brutalité et de la violence. Alors, non seulement, effectivement, quand il s'agit de mater les gilets jaunes ou les paysans, mais aussi du fait de profiter des crises. Alors, on profite de la guerre en Ukraine pour faire avancer l'Europe fédérale. On profite des menaces qu'on grossit à plaisir, que font peser tel ou tel empire sur l'Union européenne, pour accélérer l'intégration de nouveaux pays ou au contraire pour brusquement arracher l'une des dernières prérogatives aux États-nations qui la composent, la chose militaire.
Et oui, c'est terrible, cet attrait pour les crises.
C'est l'histoire du monde, ça.
Un attrait pour les crises.
Français s'est édifié sous la contrainte extérieure. Il n'y aurait pas eu d'absolutisme sans la guerre de 30 ans, il n'y aurait pas eu d'État moderne sans la guerre de 70 qui a convaincu la France de son retard. Ferry disait, l'instituteur prussien a donné la victoire à l'armée allemande, l'instituteur français, donnera la victoire à l'armée française.
Et de là à aimer les crises, c'est quand même particulier. De là à les appeler quasiment de leur vœu. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là, et elle arrive, et affirme Emmanuel Macron au Financial Times en 2020, alors qu'on vient tout juste de plonger dans le premier confinement Covid. Je veux dire, les gens sont tétanisés, ça se passe mal sur le plan économique, c'est une catastrophe. Et lui, il est bien, on le sent bien, là, dans cette interview que je recommande de voir en entier, ça dure une vingtaine de minutes. Qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, d'implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et ne rien céder. Mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. Ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Alors, il y a Georges Soros, pareil, il adore les crises.
Mais c'est fascinant. Effectivement, dans cet entretien, Emmanuel Macron nous explique que la matrice de l'avenir, c'est la crise, parce qu'elle dépouille le vieil homme, elle force
à revêtir l'homme nouveau.
À revêtir l'homme nouveau, elle force les malades à mourir, elle force les énergies nouvelles à se révéler. Enfin, voilà. Et tout ce qui est de l'ordre du consensus est par principe mauvais s'il s'oppose au progrès. Et donc, la crise qui vient faire voler en éclats la manière dont on s'était organisé est en fait sainte par essence.
Et pourquoi pas une bonne guerre mondiale ?
Je pense
que le socialisme viendra après le capitalisme, mais pas à la place. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre ? Je ne sais pas, mais c'est ça qu'il faut viser. Ça, c'est Jacques Attali en 2010. C'est donc l'ancien président de la Banque européenne de reconstruction et de développement. C'est l'ancien, une des éminences grises de François Mitterrand, puis d'Emmanuel Macron. Oui. Voilà, on a aussi des George Soros, on a Bill Gates qui passait de son temps à anticiper curieusement des pandémies. On a beaucoup on a Pascal Lamy qui nous parle de la guerre en Ukraine. Qui pourrait...
Et la crise est là aussi. Ça force à s'adapter. La politique, c'est aussi une réponse à l'imprévu. C'est aussi une réponse à des situations qu'on n'a pas forcément anticipées, du moins sur leur ampleur. C'est aussi des affaires d'occasion, d'instant, justement.
Oui, sans doute, sans doute.
On leur reprocherait quelque part leur inertie s'ils faisaient finalement le tout va très bien, Madame la Marquise, qui est après tout l'attitude des dirigeants français pendant la crise de 1929, quand on disait que... ou alors pendant le nuage de Tchernobyl. On a aussi reproché leur inertie, leur délit aux dirigeants français devant la réalité d'une crise.
Sans doute, moi j'ai l'impression qu'ils sont attirés quand même par les chocs.
J'ai surtout l'impression qu'il y a le bon choc et il y a le mauvais choc. Il y a le choc dont on refuse de considérer les effets, oui. Par exemple l'immigration, et il y a le bon choc qui est le fait de faire intervenir un pays comme l'Inde ou un groupe de pays comme le Mercosur. Et on nous explique par la voix des commissaires européens et de leur relais français que ça va nous permettre en fait, de nous mettre à niveau, que ce choc est un choc de créativité, et que les structures sclérosés, fragilisés, vont donc tomber en poussière et que de nouvelles choses vont émerger. En revanche, voilà, le choc des civilisations, ça c'est pas vrai, ça c'est un fantasme. Oui, c'est... Le choc migratoire, non, pas du tout, il ne se passe rien. Alors une fois que c'est passé, des gens comme la France Insoumise nous expliquent que la créolisation et même le grand remplacement, ou des gens aussi malins que Bayrou nous parlent de submersion de migratoire. Et là, brusquement, ce n'est plus un choc, puisque c'est devenu une situation de fait. C'est quelque chose qui est installé, on est après la vague. Et donc, vous avez raison, il est nécessaire que le politique réagisse. Mais il y a des choses qu'il désire et des choses qu'il nie, en fait. Et,
il faut réviser votre Hegel, comme Richard de Sèze.
Je crois que j'aurais tout vécu avec Lucien Rabouille dans cette émission.
La positivité du négatif. Tout phénomène bon du seul fait de son apparition, puisqu'il porte en lui-même, même comme négatif, la réponse à une solution inattendue. Nos dirigeants, vous parlez de progressisme, c'est aussi la matrice intellectuelle du progressisme. De considérer que l'humanité se progresse en se corrigeant, justement.
Alors voilà, sauf qu'on n'a pas du tout l'impression qu'elle progresse.
C'est cette vision globale aussi, c'est-à-dire qu'avoir une vision en surplus, alors ça c'est quelque chose qui est majeur à la fois dans les grandes idéologies du XXe siècle, au sein de l'International Socialiste, au sein du Club de Rome, oui. Dont j'analyse les rapports et qui sont extraordinaires, le Club de Rome, on est vraiment dans un mélange à la fois de vision mondiale totale, de volonté d'unification à tout prix.
Ce sont eux qui disent que les réserves de pétrole, tous les 40 ans, on en a encore pour 40 ans.
C'est ça.
Et là, on en a pour combien de temps ? 40 ans, et dans 40 ans, on en aura pour 40 ans.
En 72, voilà, ils annonçaient on est trop nombreux sur Terre, ça va être la catastrophe, il y aura des famines en pagaille, etc. Ils sont complètement trompés. Et c'est eux qui ont mis aussi en avant, de manière assez originale d'ailleurs, et c'était intéressant, le discours environnementalisme, et notamment l'idée d'un réchauffement global, ici des émissions de CO2. Alors au début, c'était pas très clair, parce qu'ils n'avaient pas toutes les analyses, toutes les données vraiment, mais au final, c'est eux qui ont mis en avant ce récit-là. Et chez eux, il y a ce mélange à la fois de volonté de contrôle total, de peur absolue de l'avenir, ouais, en quelque sorte, d'une forme de dépression même. Il y a vraiment des passages dans les rapports du Club de Rome qui sont un peu effrayants, écrasants et franchement dépressifs. Et ils réunissent tout ça dans ces et le Club de Rome a eu une énorme influence, hein, leur rapport. En tout cas, elles disent beaucoup de cette élite dirigeante qui a pris le pouvoir. Et moi, j'ai vu des affirmations qui étaient dans le Club de Rome, qui étaient dans les rapports du Club de Rome. Je les ai entendues de la part d'anciens présidents de la Banque Centrale Européenne, vous voyez. Donc on est vraiment dans quelque chose, dans un mouvement global extrêmement fort. Qui concerne quand même un certain nombre de dirigeants.
Ludovic Grayling, dans le monde qu'ils veulent, vous nous encouragez, voilà, à reprendre tout ce qui a déjà été écrit et qu'on n'a pas lu, à aller chercher du côté de cette internationale socialiste ou de cette alliance progressiste, voilà, qui existent toujours, qui sont influentes, mais dont on ne parle pas dans les journaux, à reprendre effectivement ce que disait le Club de Rome, à nous montrer en fait dans ce livre, donc le monde qu'ils veulent, que je remontre à l'écran, qu'il y a en fait des textes, qu'il y a une doctrine, qu'il y a des gens qui sont d'accord avec cette doctrine et qui la mettent en œuvre. N'a-t-on pas l'impression, voilà, en 2026, avec l'arrivée de Donald Trump, avec la manière dont le commerce mondial est en train de se redessiner, avec les contestations qui sont portées, par exemple, d'un point de vue de politique migratoire par plusieurs pays, y compris des pays de gauche, avec la manière dont, même on l'apprenait aujourd'hui, dont même les pays les plus écologiques, les plus septentrionneux et les plus vertueux sont en train de remettre en cause la politique énergétique de l'Union européenne, en expliquant qu'au bout du compte, pourquoi faire en sorte de subventionner l'Allemagne qui est un très mauvais élève en piquant le blé des Français ou des Suédois qui, eux, au contraire, ont une énergie propre. Alors, bon, évidemment, ce sont les Suédois qui le disent et pas du tout les Français qui sont prêts à se dépouiller une fois plus. Mais avez-vous l'impression que cette construction européenne, cette utopie mondialiste, cette utopie socialiste va être freinée ou au contraire que la machine est emballée et qu'elle est inarrêtable ?
Non, vous avez raison, il y a des réactions extrêmement fortes. Il y en a eu déjà le Brexit, c'était une réaction très forte, alors qu'il n'a pas eu de lendemain, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une séparation de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne sur le plan institutionnel et économique, une certaine séparation. Néanmoins, on voit bien que, là par exemple, ils sont dirigés par un membre éminent de l'International Socialiste qui est un vrai révolutionnaire. Hein. Et finalement, aussi, même le mouvement conservateur avant lui, avait été dans une voie que ne voulaient pas les Britanniques, avait emprunté une voie que ne voulaient pas les Britanniques. Et vous avez raison, il y a des réactions très fortes, et la principale réaction, elle est américaine.
Oui.
C'est-à-dire que ça fait déjà...
Mais c'est un peu la question qu'on pourrait vous poser. Vous parlez d'une résistance du pays réel, justement, à cet autoritarisme progressiste. Et le foyer même de l'idée de progrès, le foyer même de l'idée de nouveauté, on le sait, nourrit l'imaginaire des Lumières, qui a, on sait, accéléré le processus historique qui allait mener à la République française, est américain. On se réfère souvent à l'Amérique comme étant un modèle politique, effectivement, d'innovation, de diversité, et on voit que c'est là qu'il est rejeté, justement. Le modèle du progrès est renvoyé de l'Atlantique, est renvoyé en Europe. Et, du même coup, est-ce que, en réaction, l'Europe ne pourrait pas, ou n'est-elle déjà pas en train de devenir le foyer de refuge du Parti démocrate américain et de l'international progressiste? On le voit qu'à part quelques signaux faibles, le fait que, par exemple, le corset juridique désormais s'abatte sur les mouvements de résistance, on pense à Marine Le Pen, on pense à d'autres exemples, on pense à cette technocratie européenne qui, effectivement, tord parfois le bras de la souveraineté et impose des évolutions ou fait emprunter au peuple une voie vers laquelle ils ne veulent pas entrer. Est-ce que l'Europe ne risque-t-elle pas de devenir, en fait, finalement, ou d'inventer un nouveau progressisme autoritaire ?
Alors, ça fait quelques années, en fait. Je pense que ce mouvement que vous décrivez, ça fait quelques années. Donald Trump arrive au pouvoir en 2016, quand même.
Oui.
Enfin, il gagne en 2016. L'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, son tribunal, par exemple, est arrêté en 2016. Là, on parle de la grande, cette espèce de grande réforme économique mondiale. Et au niveau intérieur et même maintenant extérieur, quand même, les États-Unis font pression, effectivement, sur ce grand mouvement mondialiste, on peut dire. Donc ça fait quand même quelques années que, ce que vous décrivez, cette espèce de balancier là, a pris place, je pense. C'est mis en place. Et
on voit que les Américains ne se laissent pas faire. Il y a une force de résistance aux États-Unis qui prend des formes véhémentes, notamment avec Donald Trump. Et l'Europe, paradoxalement, semble plus vulnérable. Elle pourrait fort bien, et c'est terrifiant quelque part, accueillir les résidus de parti démocrate américain, dont même l'Amérique ne veut plus, et recycler.
Bah, c'est le cas. Récemment, ils ont la France a lancé
accueilli
un programme
tout
d'accueil
un tas
de
scientifiques.
Voilà, exactement. Alors finalement, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui sont arrivés en France, parce que au final, je pense qu'ils sont assez contents d'avoir leur poste là-bas. Mais
ils ont vu comment la finance et la recherche étaient financées en France, et je pense que ça leur a fait peur.
Alors que faire? Que faire pour résister à ce nouvel autoritarisme?
Juste avant, que faire, quelques Richard. Messages des auditeurs. Un parallèle est évident à faire entre Schwab de Great Reset, le parti de Macron Renaissance, et Renew pour l'Union Européenne. Voilà, effectivement, il y a toujours cette idée de renouvellement. Nul n'est besoin de goulag ou de camp de concentration. Le citoyen construit lui-même sa propre prison avec les arguments que fournit la propagande qui neutralise la pensée et mène à l'inaction. Voilà. Et enfin, tout est question de temps, quand les tireurs de Nicolas, Helmut et Giuseppe seront bien vides, le bidule bruxellois explosera. Il semblerait que le démembrement soit amorcé à l'Est avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie. Avec le coup de main de Trump sur Hormuz, l'abîme se creuse. Faut-il attendre que notre guide suprême ou son commis aux affaires, je pense qu'il s'agit de Macron, remette en place les neurones de Madame Anderson, cette suédoise présidente du parti social-démocrate soudoué, qui envisage sans rire de nucléariser la Russie avec les bombes françaises. Mais le système, dans son déclin, ne va-t-il pas reproduire les guerres prétendues de libération des tyrans en attaquant la Russie, une répétition du système de la Révolution, la guerre permettant d'imposer le changement de civilisation comme le Great Reset en cours de concrétisation.
Alors je fais juste une parenthèse, les partis sociaux-démocrates font partie, sont membres de l'Internationale Socialiste, parce que souvent il y a aussi une invention sémantique, là il y a Glucksmann qui se dit social-démocrate et plus socialiste, enfin, mais c'est la même chose, hein, ils sont strictement membres de la même organisation. Il y a de très fortes réactions en Europe aussi, hein, donc on est d'accord. Moi ce que je vois, c'est que pour l'instant l'Union Européenne-Bruxelles est dirigée par cet état d'esprit, encore une fois, qui n'est pas classique, mais qui est profondément révolutionnaire. La France aussi, l'Allemagne aussi, l'Angleterre aussi, l'Espagne aussi, ça fait beaucoup. Donc effectivement, c'est moins le cas d'Italie, c'est moins le cas de la Pologne. Mais attention, hein, Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen, est quelqu'un de particulièrement assez excité, il me semble aussi.
Il est particulièrement antidémocrate. Hein. Il mène une guerre contre ses opposants qui n'a absolument rien de constitutionnel.
Et qui est allié à François-Xavier Bellamy au Parlement européen, parce que c'est le PPE, Donald Tusk.
Il est dans le PPE. Mais le PPE, c'est pareil, c'est un peu comme, c'est vrai, comme certains partis, comme l'ancien parti républicain américain, c'est-à-dire qu'il y a en fait des éléments qui ne sont ni conservateurs, ni souverainistes, ni libertariens, par exemple, qui sont plutôt membres de cette espèce d'internationale. Social-démocrate ou socialiste, en tout cas dans l'esprit, et d'autres qui sont des dirigeants, enfin des hommes politiques un peu plus classiques. Donc ce qui est vrai au PPE, l'est aussi chez LR, et l'était avant dans le Parti républicain américain, où ils font le ménage. Moi, vous regardez, on parlait tout à l'heure de Donald Trump, c'est pas forcément notre...
Un modèle.
En tout cas, c'est pas. On parle des États-Unis là, on parle pas de l'Union européenne, mais Donald Trump aux États-Unis, la moitié de ses tweets actuels concernent les nominations pour les prochaines élections là de députation aux États-Unis et au Congrès. La moitié de ses tweets, c'est là-dessus parce qu'ils veulent faire le ménage aussi au sein du Parti républicain, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir un parti réellement libertarien conservateur. Alors que chez nous, effectivement, ce n'est pas le cas. Et je pense que l'une des raisons, c'est qu'en fait, certaines personnes, Jean-Pierre Raffarin, par exemple, Xavier Bertrand, pour prendre vraiment le cas de ce qu'on appelle la droite en France, je crois qu'ils sont plus proches d'un François Hollande ou d'un Gabriel Attal que de gens...
Que
soit François-Xavier Bellamy, par exemple.
Voilà. Ouais. Gérard Larcher a d'ailleurs dit que si Gabriel Attal remporte la primaire des droites et du centre, il faudra tous se ranger derrière Gabriel Attal. Merci mille fois, Ludovic Grayling. Je rappelle une dernière fois votre livre, Le monde qu'ils veulent, aux éditions L'Artilleur. Voilà, le bouquin à lire pour comprendre ce qui est en train de se mettre en place et qui n'est pas juste des foucades, mais qui est un plan concerté depuis des dizaines d'années pour transformer l'Union européenne en nouvelle Union soviétique. soviétique, c'est-à-dire en un pays immense, sans limite,
et
en tout cas rouge, c'est-à-dire où l'État aura tout pouvoir sur les individus pour les faire penser ce qu'ils veulent. Bah, toujours une utopie en action. Merci beaucoup Ludovic Grayling et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci.